enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ce premier thème donc que nous sommes en train d'aborder ce mardi, en ce qui concerne la famille, je peux nommer ça Jéhovah Rapha et la famille. Ou bien la restauration de la gloire dans la famille. La restauration de la gloire dans la famille. Amen. Nous allons prendre notre texte de base en ce qui concerne Jéhovah Rapha dans le livre de Exode, le chapitre 15, verset 26. On va commencer à partir du verset 22. Il est dit, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Le Seigneur dit ceci, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit, et je dis ceci, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Alléluia. Je vous expliquais la dernière fois que Israël va passer par différentes épreuves dans le désert. Et ces différentes épreuves-là étaient pour montrer au peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu puisse voir la gloire de Dieu. Malheureusement, Israël n'a pas saisi cette gloire-là qu'il devait voir. Et je vous ai encore expliqué que la gloire de Dieu, l'homme de Dieu aussi, Samuel prédit, que nous avons réussi ici à expliquer que la gloire de Dieu, c'est Dieu qui se révèle, qui se révèle à toi selon une de ses facettes. Mais la révélation qu'il a, ce n'est pas comme si tu vois le pasteur Sanogo, tu vois un individu. Non, c'est une connaissance de Dieu en profondeur. Amen. Quand Dieu se révèle à toi, ce n'est pas comme un nom qu'il te donne, mais c'est quelque chose qui est une réalité dans ta vie. Amen. Donc quand Dieu se révèle à toi comme étant le Jéhovah Rapha, ce n'est pas simplement un nom que tu cites dans ta bouche pour dire Jéhovah, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. C'est une vie qui est en toi. Tu le sens, tu le vis, tu le vois. Alléluia. Et ce matin, ce soir, pardon, nous allons étudier le Jéhovah Rapha en ce qui concerne la famille. Parce que Dieu est le Jéhovah Rapha dans la famille. Donc le même principe de la première école de la gloire est valable aussi dans la famille. C'est ce que nous sommes en train, nous allons commencer donc ce soir. Alléluia. Donc, restaurer tout ce que le diable a volé. Ou bien, tout ce que le diable a volé en ce qui concerne les fiançailles, en ce qui concerne la famille. Nous voulons voir la restauration, n'est-ce pas, de la famille, la gloire de Dieu dans la famille. Alléluia. Donc, la Bible dit que Dieu dit, il a permis à ce que les Égyptiens soient frappés de plaies et de maladies diverses. Les plaies qui frappent les Égyptiens sont les synonymes ici, on peut les comparer à ces plaies-là qui frappent l'humanité, qui frappent le monde. Vous savez, très, très souvent, lorsqu'on écoute l'enseignement sur l'Égypte, on dit l'Égypte représente le monde païen. Et Dieu dit ceci à Israël, après les avoir fait, après avoir permis qu'ils puissent, qu'ils boivent, qu'ils aient bu l'eau de Mara, ils ont murmuré. Ils n'ont pas eu la bonne attitude. Moïse a cherché Dieu, Dieu lui a donné un bâton. Moïse a pris le bâton, il l'a mis dans l'eau, l'eau amère est devenue de l'eau douce. Mais comme c'était la première école, Dieu a été assez tolérant. Il a dit, la Bible dit que ce fut là qu'il les a éprouvés la première fois, il leur a donné les lois et les commandements, et puis voilà ce qu'il va dire, qui est la première école de la gloire, la dimension de la première école de la gloire. Il dit, si vous marchez selon ma parole, si vous écoutez ma voix, les maladies, les problèmes que vivent les autres hommes, l'humanité, ne seront pas votre partage. Vous n'allez pas souffrir comme ils souffrent. Vous ne connaîtrez plus les maladies, les problèmes qu'ils connaissent. Il dit, les maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, n'est-ce pas? Vous ne les connaîtrez pas. Si vous êtes attaché à ma loi, il dit, car je suis Jéhovah. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ce qui est écrit. Mais le mot guérit, en hébreu, c'est Rapha. Amen. Il dit, car tu ne vas pas connaître ces souffrances-là que tu as connues en Égypte. Tu ne vas pas connaître les souffrances que vivent les Égyptiens, parce que moi, ton Dieu, Je suis Jéhovah qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha. Il faut que tu me connaisses comme Jéhovah Rapha. Et c'est juste après cela donc il dit, car je suis l'Éternel qui te guérit, verset 27. Et ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Alléluia. Donc Dieu est le Dieu qui restaure. Et quelle est cette situation-là dramatique que connaissent aujourd'hui les foyers? Parce que la situation devient de plus en plus dramatique. Si vous faites un peu de recherche, vous faites un peu d'études, vous allez voir que la famille actuellement connaît un drame comme pas possible. Aujourd'hui, le nombre de délinquants, de brigands et tout ce que nous voyons dans la ville n'est qu'une conséquence du drame conjugal. Voilà ce que les Écritures disent. La Bible dit que si un homme ne sait pas diriger ses enfants, il ne peut pas être un responsable dans la maison de Dieu. Autrement dit, si un enfant est brigand, pour Dieu, c'est quelque part à cause de son père et de sa mère. Vous me suivez? Amen. Parce que Dieu tient la personne, l'homme ou la femme, responsable de l'attitude de l'enfant. Je sais que beaucoup de gens me diront, mais ce n'est pas de notre faute, comment est-ce qu'on peut faire? Amen. Adam et Ève, malgré le fait qu'ils ont péché, ils n'étaient pas païens. Et malheureusement pour eux, ils ont eu deux enfants. Un qui était bon, un brigand. Et puis un autre qui était un brigand, Caïn. Mais Caïn même ne savait pas qu'il était brigand. C'est le jour où Dieu a apprécié l'offrande de son frère que subitement il s'est transformé en brigand. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute de Adam? Bon, ça peut se discuter. Il m'a dit, mais Adam m'a dit, mais voilà, Abel, je l'ai bien formé. Si Caïn est devenu comme ça, je ne peux rien faire. Non, Dieu tient l'homme et la femme responsables. Donc, si Dieu tient l'homme et la femme responsables de l'éducation des enfants, nous pouvons donc conclure que le banditisme, la débauche, tout ce que l'humanité est en train de voir, n'est-ce pas? C'est vrai, il y a différentes causes, mais les parents en sont responsables. Il y a une démission au niveau du foyer. On peut tirer, je vais élargir cela, ce n'est pas peut-être quelquefois des démissions directes. Mais quand j'ai commencé cet enseignement, et puis tous les enseignements que nous sommes en train de donner sur la gloire, j'ai dit ceci, c'est qu'il faut que vous preniez vos responsabilités. Amen. On ne peut pas entrer dans la gloire si on ne prend pas le bâton, la verge de la responsabilité. Alléluia. Cette verge-là qui va transformer l'eau amère en eau douce. Amen. Amen. Donc Dieu tient les parents pour responsables. Donc tout ce que nous voyons, c'est la conséquence de la destruction de la cellule familiale. La cellule familiale a des problèmes parce que les gens ne se marient pas très souvent selon le plan de Dieu. Et même quand les hommes sont mariés, un homme et une femme sont mariés selon le plan de Dieu, lorsqu'ils rentrent dans le foyer, ils ne vivent pas aussi selon le plan de Dieu. Chacun vit comme il veut. Chacun marche comme il veut. Chacun est convaincu d'avoir raison sur tel ou tel sujet. Et chacun donne, moi j'ai raison, c'est toi qui as tort, tout ça. Tout ceci là, ce ne sont que les conséquences de l'absence de la gloire. Dis avec moi la gloire. La gloire. La gloire. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on arrive dans la société mondiale où on a presque un divorce sur deux mariages. J'ai lu une statistique, on dit que très souvent, le plus souvent, ce sont les femmes même qui demandent le divorce. À cause de l'attitude, j'ai lu dans les statistiques, très souvent irresponsable des hommes. Donc, en fait, dans les statistiques, on dit souvent, les hommes sont moins responsables de leur foyer que la femme. Bon, je ne sais pas s'ils ont raison dans les stats, mais quand j'ai lu les Écritures, j'ai vu que ce n'était pas trop faux. C'est tout ce qu'on va étudier. Vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que chaque fois que Dieu veut donner un conseil à la famille, Dieu parle toujours à la femme. Il commence d'abord par la femme. Il dit, moi je ne trouvais pas ça logique. Je trouvais que l'homme étant le chef de famille, ça lui, on devait commencer le verset en disant, vous pouvez lire par exemple Éphésiens 5, 22, Colossiens 3, tout ça, il dit, Dieu aurait dû commencer en disant, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et puis le verset qui suit, femme, sois soumise à vos maris, à votre mari. Mais regardez tous les passages. On commence par la femme. Femme, sois soumise. Et puis deuxième passage, Marie, aime ta femme. Ça ne veut pas dire que ça dédouane les hommes de leur responsabilité. Mais vous allez comprendre, la femme, combien de fois vous avez un rôle important dans la restauration de la gloire. Alléluia. Alléluia. La femme a un rôle important. Pourquoi cette responsabilité-là? Dieu commence par elle. En fait, l'apôtre Paul l'explique dans 1 Timothée chapitre 2, verset 14, en disant que, en fait, c'est parce que c'est la femme qui a été séduite la première. Donc, comme elle a été séduite la première, c'est à elle de commencer à poser le premier pas de la restauration.
Alléluia.
Combien quelqu'un n'a pas compris? La femme a été séduite la première. Donc Dieu, pour humilier Satan, va prendre d'abord la femme pour l'humilier. Dieu va humilier Satan d'abord par la femme. Parce que c'est Satan qui est venu troubler la femme et son foyer. C'est par cette grande responsabilité, les femmes ne comprennent pas que c'est cette responsabilité-là que Dieu leur a donnée en disant ceci: femme, tes désirs se porteront vers ton mari et lui va dominer sur toi. En fait, Dieu va mettre dans le cœur des femmes le fardeau de la restauration du couple. C'est pourquoi les femmes aspirent plus au mariage que les hommes. Chaque fois qu'on fait Eden, on dit séminaire sur le mariage ou bien les fiançailles. 80% dans la salle, ce sont les femmes. Mais Dieu, c'est pas dit que l'homme est insouciant du bien-être de son foyer, non. Mais le fardeau tient plus à la femme. Mais, par contre, si on fait tout de suite séminaire sur les affaires et l'entrepreneuriat, les hommes seront les plus nombreux. Pourquoi? Parce que dans la même parole que Dieu a adressée à Adam et Ève, Dieu dit: homme, toi tu vas chercher à travailler, mais tu auras des problèmes dans ton travail. Donc, le désir de la femme est plus porté vers l'homme et le désir de l'homme est plus porté vers son association professionnelle. Alléluia. Donc, c'est dans ce sens-là que quand Dieu commence, l'apôtre Paul, Dieu passe par la bouche de l'apôtre Paul pour dire ceci à la femme: femme, sois d'abord, sois soumise à ton mari. Et quand vous lisez 1 Pierre chapitre 3, il dit, en fait, c'est bon. Il dit à la femme, il dit, si un mari n'obéit pas à la parole, femme, par votre attitude, ah, quand on va étudier ça, je vais parler aux hommes, hein, mais les femmes, vous allez comprendre que Dieu accorde encore à la femme, Dieu accorde à la femme cette grâce-là de restaurer. Amen. Le diable est passé par elle pour faire chuter l'humanité. L'homme aussi a accepté, l'homme est responsable, mais de même aussi, Dieu passe par la femme. Alléluia. Pour la restauration de la gloire. En fait, c'est ce qu'il traduit dans la parole en disant la descendance de la femme va écraser la tête du serpent. Il n'a pas dit l'homme, il n'a pas dit la descendance de l'homme, il n'a pas dit les garçons. Bon, bref, ça n'est pas dit que les hommes ne peuvent pas détruire le diable. Mais ça parle d'une très grande responsabilité en ce qui concerne la femme. Et vous allez voir comment vous pouvez jouer fortement dans cette responsabilité pour restaurer le phénomène, pour restaurer la gloire dans les familles. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alors on va parler de toutes ces choses, de la restauration de la gloire dans les fiançailles, dans la gestion du couple, et puis dans la restauration de la gloire dans l'éducation des enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Alléluia. Allons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Il est dit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, tu mangeras de l'herbe, des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Alléluia. Amen. Quand vous regardez ce passage, vous avez ici les premiers conflits conjugaux. Oui, ou bien vous ne trouvez pas le premier conflit. Premier conflit conjugal, Adam et Ève ne sont pas d'accord sur la responsabilité en ce qui concerne la consommation du fruit. Adam dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi, donc il accuse Dieu, il accuse sa femme. La femme n'est pas d'accord. Elle dit, ce n'est pas moi. C'est le diable, c'est le serpent. Premier conflit. Elle dit, les gens ne sont pas d'accord. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient d'accord. Alléluia. Et parce qu'ils sont d'accord, la Bible déclare, la Bible dit qu'il peut faire venir. Je vais parler de ça tout à l'heure. Ils peuvent manifester le règne de Dieu. Vous savez, frère, depuis le début de la création, Dieu a eu un seul plan. Son plan n'a pas changé. C'est que son règne vienne sur la terre. Sa gloire soit manifestée. Que toute la terre soit remplie de sa connaissance. La Bible dit que dans la fin des temps, de même que les océans sont remplis des eaux, de même la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Nous sommes à une époque où la gloire de Dieu, nous sommes cette génération-là qui va faire descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Les hommes sur la terre, c'est parce que Jésus revient très bientôt. Mais Dieu ne veut pas que les hommes puissent dire, je n'ai pas cru en Jésus parce que j'étais ignorant, parce que je ne savais pas. Dieu va descendre une telle gloire, une telle manifestation de puissance, que c'est consciemment et sciemment que les hommes vont rejeter le Christ. Il ne va pas arriver une histoire, on va arriver au ciel et puis il y aura un discute. Il dit, mais je ne sais pas, moi il m'a mis il y a longtemps, je suis né dans l'islam, tu voulais que je me convertisse à Christ, comment? Donc, pour éviter ces débats, pour ceux de la fin des temps, Dieu va déverser quelque chose de puissant. L'homme a besoin d'une telle gloire qui va ramener, y compris même les peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand vous voyez un groupe religieux comme l'islam, ceux-là, on évangélise, c'est vrai. Il faut la gloire de Dieu. On leur parle. Mais au point où nous en sommes, parce que quand tu prends ta Bible, tu dis tu as la Bible, moi j'ai le Coran. La discussion est âpre, dure. Maintenant, c'est la gloire qui va faire la différence. Alléluia. Et cette gloire-là sera tellement manifeste, et c'est là qu'on va voir les fils du diable et les fils de Dieu. Vous allez voir qu'il y a des gens même qui appartiennent à Satan. Ils vont dire ouvertement, ce Jésus, on ne va pas marcher avec lui. On voit même qu'il est Dieu, mais on a décidé de marcher avec le diable. Ça veut dire que c'est consciemment, sciemment, que les gens choisiront de marcher avec Satan. La gloire sera tellement manifeste parce que Dieu va séparer les choses très clairement afin que les hommes puissent choisir. Alors viendra le jugement. Alléluia. C'est pourquoi il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera répandue dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Ça veut dire quoi? Que ça serait une telle référence que ça pourrait être un témoignage. Si elle a annoncé comme on s'amuse, elle dit, crois en Jésus, je crois pas. Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Mahomet ici est venu, bon, tu vois ça là? C'est parole contre parole. Bon, pourquoi tu veux même qu'il se convertisse? Tu vas le convaincre, tu dis, rentrons dans les Écritures. Dieu va démontrer la gloire. Dieu va démontrer la gloire. Les gens verront. La Bible dit, on n'allume pas une lampe. Toutes ces prophéties-là vont s'accomplir. Écoutez-moi. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Ayez l'éclair tous ceux qui sont dans la maison. Il dit que votre lumière luise devant les hommes. Le jour arrive où la lumière des enfants de Dieu va luire devant les hommes. Et toutes les nations vont voir. Il dit, afin que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils donnent gloire à votre Père qui est dans les cieux. Amen. Les païens verront les bonnes œuvres des enfants de Dieu. Ils verront les bonnes œuvres sur le plan gestion économique. Ils verront les bonnes œuvres sur le plan gestion familiale. Ils verront la différence entre les enfants de ceux qui craignent Dieu et les enfants de ceux qui ne craignent pas Dieu. Il y aura une différence manifeste. On verra la différence entre les hommes de Dieu et ceux qui prennent la Bible mais qui ne sont pas hommes de Dieu. Ces choses-là vont être clarifiées pour que les hommes aient la capacité de choisir. Alléluia. Donc l'Éternel s'apprête à déverser sa gloire dans l'Église. Amen. Or, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu a voulu faire venir la gloire sur la terre, voilà ce qu'il dit. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 27, la Bible dit que Dieu a créé l'homme pour qu'il fasse venir son règne. La phrase littéralement, Dieu a créé l'homme pour qu'il... Dieu dit, créons l'homme à notre image et qu'il domine. Ou bien encore, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre. Comme l'homme est créé à l'image de Dieu, alléluia, la domination qu'il va faire venir sur la terre, c'est la domination de Dieu. Dieu dit, créons l'homme à notre image pour qu'il domine sur la terre. Et Dieu va faire commencer la domination de l'homme dans un petit territoire qu'on appelle Éden. Et il va demander à l'homme à partir de Éden de conquérir la terre. Donc Éden était la gloire de Dieu. Éden, c'est l'endroit où l'homme développait une intimité personnelle avec Dieu. Ce qui va se passer, c'est que l'homme va quitter Éden. Donc, dès l'instant où l'homme quitte Éden, il ne peut plus faire venir le règne de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. C'est pourquoi si vous lisez Genèse chapitre 9, verset 1. Attends, lisons tous ces différents passages. Vous allez voir. D'abord, Genèse chapitre 2. Pardon, chapitre 1, pardon. Qu'est-ce que je vais dire? Chapitre 1. Verset 26. Il est dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, quand vous notez bien le verset 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Certaines personnes disent, pour qu'il domine. D'autres disent encore, afin qu'il domine. Amen. Donc, le vrai sens, c'est pas, Dieu a créé l'homme à son image, et puis en surplus, il n'a qu'à dominer. Dieu a créé l'homme pour qu'il domine. Amen. C'était un projet, afin qu'il domine. Dieu a voulu cela. Il dit, pour qu'il domine. Verset 27, Dieu va expliquer maintenant comment est-ce qu'il veut que l'homme amène la domination. Voilà ce qu'il dit. Verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Le verset 26 et le verset 27 se ressemblent. Au verset 26, Dieu dit à l'homme, je t'ai créé pour que tu domines. Au verset 27, Dieu va donner la procédure pour que l'homme puisse dominer. Il dit, Dieu a créé l'homme et la femme, c'est-à-dire le couple est né pour être fécond. Amen. Il dit, Dieu les bénit, Dieu leur dit. Donc Dieu les a bénis. Ça veut dire quoi? La première prophétie, je vous ai expliqué aussi, quand l'année dernière on a étudié l'enseignement sur les bénédictions, j'ai dit qu'une bénédiction est une parole de Dieu, c'est une prophétie de Dieu. Donc la première prophétie que Dieu donne à l'humanité, la Bible dit Dieu créa l'homme et la femme, Dieu les bénit en disant, Dieu prophétisa en disant, Dieu annonça sur leur vie en disant, soyez féconds. Amen. Donc, leur mission, c'était pas avoir beaucoup d'argent, c'est soyez féconds. Amen. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Donc, verset 26, Dieu n'a pas expliqué la procédure. Il dit, je vous ai créé pour dominer. Au verset 27, il donne le chemin. Il dit, pour dominer là, il faut que vous soyez féconds. Il a dit, Adam et Ève, ayez des enfants. Pour atteindre la domination, il faut que non seulement vous soyez fécond, mais que vous commenciez à remplir la terre. Remplissez-la. Il dit, soyez fécond, multipliez-vous. Alléluia. Remplissez la terre. Assujettissez. Et c'est après quoi vous pourrez dominer. Vous me suivez, non? Je te crée pour que tu domines. Mais avant de dominer, il faut d'abord être fécond. ta fécondité là, il faut qu'elle soit multipliée. De la multiplication, tu dois remplir. Quand tu vas remplir, tu es assujetti. Une fois que tu as fini d'assujettir, le règne de Dieu est manifesté. Tu domines. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Et ce système-là, bon, ce que je suis en train d'expliquer, ça n'est pas dit forcément. Parce que là, peut-être qu'il y a des hommes qui sont en train de regarder leurs femmes pour dire, tu as compris? Plus de limites. Voilà, on dit d'être fécond. Ok. Littéralement, c'est pas faux. Mais dans le mot fécondité, Dieu emploie beaucoup de choses. Dieu est en train simplement d'expliquer que l'homme et la femme, lorsqu'ils sont ensemble, ils sont créatifs. Dans le mot fécond, il y a soyez créatifs. Ayez des idées. Vos idées, faites en sorte qu'elles se multiplient. Vos idées, faites en sorte qu'elles soient répandues dans tous les endroits. Qu'elles remplissent la terre. À cause de votre créativité qui va s'étendre, remplissez la terre. Assujettissez-la. Assujettir, ça veut dire amener tout le monde à dépendre de ce que vous avez créé. Ta femme et toi. Amen. Et quand les gens vont dépendre, les gens vont courir après ce que vous avez fait, vous allez pouvoir manifester le règne de Dieu. Quelqu'un me suit? Ok. J'ai expliqué ça longuement. Je vais expliquer ça pour les nouveaux. Ça, c'est un principe, par exemple, que les occultistes appliquent. Dans l'islam aussi, on applique le même principe. Mais eux le font beaucoup plus en ce qui concerne les naissances, la fécondité. Mais la règle est vraie en tout temps. Donc, comme je l'avais dit, tu prends un homme. Si vous avez votre propre village, c'est votre ethnie qui est là. Un de nos frères musulmans, par exemple, il arrive. En tant qu'un bon chrétien, dans le pays, par exemple, la Côte d'Ivoire, toi, tu vas opter pour avoir une femme. C'est très bon. Par mesure de protection, planning familial, tu vas être gentil si tu as eu trop 5 enfants. C'est bien. Maintenant, mon frère musulman, vous êtes promotionnaire. Lui, il commence son histoire avec 4 femmes. Chaque femme fait 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants. Donc, vous êtes joué au ballon ensemble, ton ami et toi. Vous êtes marié, vous êtes grandi, la prise est 4 femmes, tu as pris une femme. Tu es un bon frère dans la crise, tu as fait 5. Lui, chacune de ces femmes a fait 5, 5, 5. Donc, vos enfants qui jouent ensemble, tu en as 5. Lui, il en a 20. Mais c'est ton village quand même. Ok? Vos enfants grandissent ensemble. Ils sont tous des amis. Quand ils grandissent, chacun se marie. Toi, tu as eu 5 enfants, non? Dans tes 5 enfants, tu as 3 garçons, 2 filles, peu importe. Mais chacun entend, s'ils sont chrétiens, gloire à Dieu, chacun va prendre une femme, une femme, une femme, une femme, une femme. Ils vont faire comme papa au même moment. Chacun va avoir 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants. Ok? Ça fait que toi, tu as combien de petits-enfants? 25 petits-enfants. Lui, il avait combien d'enfants déjà? 20. Maintenant, je fais moitié-moitié. Dans les 20 enfants, il a 10 garçons, 10 filles. Chaque 10 garçons, chacun des garçons prend 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes, 4 femmes. Ça fait combien? 40 femmes. Chacune de ces femmes-là fait 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Chacune de ces 40-là. Donc, au niveau de ces garçons, ton promotionnaire, il a 200 petits-enfants de ces garçons. Maintenant, ces filles, 10, voici, vont marier des hommes. Donc, chacune va faire 5, 5, 5, 5, 5. Donc, ton promotionnaire qui jouait dans votre village qui vous appartient, toi, tes petits-enfants, tu en as en tout 25. Lui, ses petits-enfants, il en a 250. Elle est pour toi multiplié par 10. Maintenant, supposons qu'on passe à la génération qui suit. Essaie de faire le calcul. Supposons qu'il a 100 garçons seulement. Sur 250 là, il en prend 100 garçons. Et chacun prend 4 femmes, 4 femmes. Ça lui fait 400 femmes. Chaque femme a 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants, 5 enfants. Ça fait 2000 arrière-petits-enfants s'il a 100 garçons. Même tes 25, essaie de faire le calcul. Si vous êtes trop arrivé, peut-être c'est 125 à peu près. 125. Donc, subitement dans votre propre village, ceux qui sont venus vous visiter, ils sont 2000, vous êtes 125. Mais c'est votre village. Ce n'est pas que vous voulez, même s'ils n'ont pas, vous dites, c'est notre, nous sommes propriétaires terriens, tu ne seras pas, vous ne pouvez pas être chef du village. Et ils n'ont pas besoin d'être chef du village. Toi, dans tes 125 arrière-petits-enfants, tu as dis de tes filles, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller au champ, il y en a qui vont faire du commerce, il y en a 10 qui ont décidé de faire du commerce. Lui, il a plus de 2000 arrière-petits-enfants. Quand tes 10 vont au marché, lui, il prend seulement 200 filles qui sont aussi au marché. Quand les gens viennent au marché pour faire les courses, tu vois comment ça devient compliqué de trouver tes 10 filles dans 200 autres commerçantes. Donc, naturellement, l'argent va plus chez eux que chez vous, parce qu'ils sont plus nombreux. Et tes 10 enfants qui sont en train de vendre, comme vous, dans votre propre village, vous n'êtes pas nombreux, ils seront obligés de changer leur politique marketing. Parce qu'ils veulent vendre, s'ils eux-mêmes ils veulent vivre dans leur propre structure, dans leur propre village, ils sont obligés de leur vendre à eux. Donc du coup, pour pouvoir faire le commerce, même si c'était chrétien avant, ils ont dit, hé ma soeur, si tu veux rester dans Jésus là, tu ne vas pas vendre ici, hein. Si tu veux bien vendre là, toi aussi il faut t'habiller aussi comme eux. Même maintenant tes filles qui vendent aussi s'habillent aussi en boubou. Parce que pourquoi les confondre au marché? Parce que si on sait qui est qui dans le marché, on ne viendra pas acheter chez elles. Donc elles tous aussi commencent à parler leur langue. Et si tu ne parles pas, on ne viendra pas chez toi. Parce qu'ils sont 200 dans le marché, vous êtes 10. Donc, même vos valeurs, vous commencez à les perdre. Parce que vous cherchez de l'argent. Vous avez combien d'enfants? Si vous voulez vous marier, les filles m'ont dit, papa, c'est vrai, hein, nous sommes des croyants. Mais les garçons, il n'y en a pas beaucoup au village. Le monsieur, là, il a au moins plus de 1000 garçons. Vous, dans votre famille, les filles, là, il y a peut-être 25 hommes. Donc, quand vous mariez, c'est fini déjà. Donc, à un moment donné, même si le père a beau prier, vous dites que vous avez dit, bon, comment j'ai fait? J'allais me marier. Je vais me marier pour qu'il se convertisse. Il va se convertir. Je vais essayer de le convertir. Parce que tu aspires au mariage. Ils sont les plus nombreux. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand quelqu'un, lorsqu'une population se multiplie, que vous le vouliez ou pas, elle prend le pouvoir. Parce qu'elle va prendre le pouvoir économique. C'est eux qui ont le plus de femmes, qui ont le plus d'hommes pour se marier, qui ont le plus d'argent, qui ont le plus de tout. Même si vous avez le pouvoir, on vous a voté, on dit c'est votre village, pour que le chef du village puisse même appliquer sa politique d'assainissement du village, il est obligé de demander au chef de l'autre groupe, est-ce que tu peux me prêter un peu d'argent pour que je fasse la route? Il va dire, bon, si je te prête de l'argent, on construit trois mosquées ici, hein, ok? Il dit, mais il n'y a pas de problème. Parce qu'ils sont Est-ce que vous me suivez? Parce qu'ils sont les plus nombreux. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous n'êtes pas nombreux, vous ne pouvez pas dominer. Pour être dominé, pour dominer, il faut être fécond, il faut multiplier, il faut remplir. Alléluia. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller avoir 40 enfants. Et je n'ai pas donné un feu vert aux hommes ici pour dire, pasteur, merci de nous avoir libérés. Officiellement, si nos frères musulmans prennent 4, nous allons prendre 5 femmes. Si quelqu'un pense qu'on nous a dit, arrière de moi, Satan, va-t'en. Ok. Bon, je vais rapidement, parce que ce n'est pas là le but de mon message. Amen. Mais c'est très important de comprendre ces choses-là. Aujourd'hui, ce n'est pas la multiplication que Dieu nous demande d'avoir, ce n'est pas avoir 20 femmes, non. Là, Dieu a recommandé la monogamie. C'est ce qu'il a fait en première position. Il n'a pas donné beaucoup de femmes à Adam pour qu'il se multiplie vite. Mais, pour nous les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est dans la conversion des autres. Vous comprenez? Pour qu'un enfant grandisse et qu'il ait des enfants, il faut apprendre qu'il attende 25 ans. Mais si vous gagnez simplement à Jésus, les âmes, en les amenant à Christ, l'église, les enfants de Dieu vont croître beaucoup plus vite que toute autre forme de naissance. Amen. C'est pourquoi Christ a dit, il faut que l'évangile soit répandu partout dans le monde. Mais je veux vous dire ceci, c'est que pour que on soit fécond, qu'on remplisse la terre. Aujourd'hui, vous commencez simplement à regarder le peuple qui est en train de prendre le pouvoir au monde en ce moment-là, ce sont les Chinois. Pourquoi ils prennent le pouvoir? Ils sont les plus nombreux. C'est pas les produits chinois vous plaisent. Ça ne vous plaît pas. Ils sont milliards. Ils sont fous. Tu vois, on dit ça, c'est quoi? C'est portable chinois, c'est portable européen. Même portable, même les Européens ont des problèmes. Parce que quand vous êtes les plus nombreux, même si vous travaillez avec médiocrité, toute l'humanité va suivre votre médiocrité. On dit non, c'est un produit chinois, mon frère. Ils sont les plus nombreux. Alléluia. Donc si tu fabriques ton sac là, ça coûte 50 000 francs. Eux qui vont fabriquer là, mais ça va coûter 5 000 francs. Donc tu es obligé. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous demande d'être fécond, de nous multiplier, d'assujettir et de faire venir son règne. Et pour que son règne vienne, Dieu va choisir la famille. Parce qu'il a dit, pour être fécond, il faut réussir le couple. Le couple, il dit, Adam et Ève, soyez féconds. L'homme est productif lorsqu'il s'entend véritablement avec sa femme. Je t'assure, mon frère. Si déjà tu arrives à faire de grandes choses, mais si tu as un accord parfait avec ton épouse, que vous êtes un, tu vas être surpris de découvrir que tout ce que tu cherches, tu l'obtiens. La Bible dit ceci, si deux personnes s'accordent, tout ce qu'elles vont demander à Dieu, cela leur sera accordé. Amen. Il y a une puissance dans le mariage. Pas simplement le fait d'avoir des enfants physiques, mais dans l'entrepreneuriat, dans des projets, dans les idées. Parce que lorsqu'on s'accorde, on fait des exploits. Le couple est très important pour Dieu. C'est la raison pour laquelle lorsque Satan attaque l'humanité, la première des choses qu'il aime attaquer, c'est le foyer. Parce qu'il sait que si les gens ne s'entendent pas, si monsieur et madame se battent constamment, en fait, ils seront peut-être en accord devant la loi humaine. C'est-à-dire, ils sont dans la même maison. Parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui sont divorcés sans être divorcés officiellement. Il y a des gens qui marchent ensemble sans être d'accord. L'accord dont le Seigneur est en train de parler, ce n'est pas un accord de façade. Mais soeur, écoutez-moi, je n'ai pas envie que vous mariez juste pour dire que vous avez une bague au doigt. Le mariage pour Dieu, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une robe blanche. C'est quelque chose de très profond. Dieu ne plaisante pas avec ces choses. Alléluia. Dieu prend l'affaire du mariage très au sérieux. Alors, tant que, pour Dieu, quand tu viens à l'église, tant que tu as une conception erronée du mariage, Dieu ne te l'accorde pas. Dieu ne te l'accorde pas parce que toi, tu plaisantes. La Bible dit ceci, on ne donne pas les pères ou le pourceau. Dieu n'a pas fait le mariage juste pour que tu aies quelqu'un dans ta chambre. Il y a un plan. Il y a un plan. Dieu a un projet. Son règne devait venir sur la terre par le couple. Dieu ne badine pas avec ça. Donc, ce n'est pas une affaire de dire, Seigneur, il y a longtemps je suis pas avec quelqu'un. Il y a longtemps je suis pas avec quelqu'un. Donc, il faut que je me plonge dans le mariage. Non. Toi, tu es enfant de Dieu. Pourquoi je te bloque? Pourquoi je te bloque? Pourquoi? Il y a un plan. Et maintenant que nous sommes à l'époque où la gloire doit être restaurée, Dieu va tenir davantage à cela. Alléluia. Alléluia. Dieu tient davantage à cela. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire en 1 Timothée chapitre 5 verset 8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Autrement dit, quand le foyer n'est pas stabilisé, n'est pas entretenu, Dieu estime que celui qui a fait cela, il a tout gâté. Il dit, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Il a tout gâté. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, parce que la gloire de Dieu va revenir, c'est la raison pour laquelle les couples doivent être restaurés. Ce que je vous annonce de la part de Dieu, c'est la restauration des couples. L'enseignement que nous sommes en train de recevoir, vous savez, Dieu veut changer ta manière de penser en ce qui concerne le mariage. Alléluia. Parce que la pensée avec laquelle tu vas aborder le mariage est la raison même pour laquelle les maladies qui frappent les Égyptiens t'atteignent toujours. C'est dans le monde aujourd'hui, c'est le diable qui fait ça. Sur ceux qu'il règne, il a rendu compliqué le mariage. Sur ceux sur lesquels il est établi comme roi, il a amené toutes les difficultés. Regardez que tout a commencé après la chute d'Adam. Le premier palabre, la première mésentente, c'est ça. Adam dit ça, Ève dit une autre chose. Quelque temps après, amen. Adam donne une phrase, il donne un projet. Après cela, Dieu va dire encore, quand l'homme va finir de manger le fruit, après que Adam et Ève n'aient pas été d'accord là-dessus, Dieu va dire à la femme, j'augmenterai les souffrances des grossesses. Ça veut dire, il y a une certaine souffrance en ce qui concerne le couple qui va arriver dans la femme. Il va dire ceci, qui est un germe de conflit. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Ça veut dire qu'avant, Dieu n'avait pas donné à la femme, à l'homme de dominer sur la femme. Quelqu'un me suit? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il va dominer sur toi. Ça veut dire avant qu'ils aient mangé le fruit, là, l'homme ne dominait pas la femme. Attends, c'est quand ils ont mangé le fruit, on dit tu vas dominer. Donc avant le fruit. Alléluia. Bon, on va être libéré. On va être libéré. Amen, on va continuer. Bon, faut pas prendre cette parole à parler avec ton mari. Maintenant, tu parles, je parle. Nous sommes égaux parce que nous sommes de la génération du second Adam. Jésus-Christ est venu pour tout restaurer. Alléluia. Je vous ai défini la dernière fois que, je vous ai dit la dernière fois que le mot soumission dans la parole de Dieu est différent du mot obéissance. La Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari. Vous allez voir que ce thème-là est très profond. Et Dieu m'a fait voir des choses là-dessus. J'ai dit enseigner là-dessus, mais ce que j'ai compris aujourd'hui sur la soumission, c'est trop puissant. Il y a une clé dangereuse dans la soumission. C'est-à-dire, arrêtez de croire que soumission égale obéissance. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on appelle une femme soumise. La femme qui est, ce que la Bible appelle une femme soumise. Mais c'est une attitude que tu crées dans ta maison autour de toi qui fait que aucun homme ne peut résister à entrer dans le plan de Dieu. C'est pourquoi il dit femme. Il n'a pas donné un doute. Il dit, si un homme n'obéit pas à la parole quand on lui parle, il dit, femme, tu peux adopter une attitude. Il ne met pas un doute. Il dit, si tu fais ça, ton mari va se convertir. C'est pas peut-être. C'est pas peut-être. Il dit, il va obéir à la parole. Mais c'est pas simplement obéir à la parole dans le sens de se convertir. Ça peut être obéir à la parole même dans le sens même de la gestion de la maison. Il dit, si quelqu'un n'obéit pas à la parole, qu'il puisse obéir à la parole par ton attitude.
Alléluia.
Moi, je dis même, ça va même plus loin. Quelqu'un, parce qu'actuellement, là, comme c'est le désir des femmes qui est porté vers les hommes, mais les hommes, c'est porté vers le travail, donc ils reçoivent très tardivement les vraies révélations sur leur femme. Mais la femme peut recevoir très vite. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde parce qu'il est agité par beaucoup de pensées. Le gars, il pense comment il va faire pour travailler, tu vois. Là. Et c'est vrai, c'est normal. Alors, la femme, par son désir qui est porté vers son mari, avant, c'est vrai qu'il y a des hommes aussi qui aspirent au mariage, c'est important, je n'ai pas dit non, mais le plus souvent, ça se rend compte. Elle crée, il faut qu'elle crée une certaine atmosphère. Quand cette atmosphère est dégagée par la femme, ça attire l'homme. Quel que soit le pays où il se trouve, c'est comme un parfum spirituel. Alléluia. Alléluia. C'est comme un parfum spirituel qui va dans les nations, dans les pays. Et puis, il te dit, pendant que le gars il a couché, ta femme t'attend, elle est prête. Le gars se relève, il ne sait pas pourquoi. Quand tu étais en Côte d'Ivoire, il était aux États-Unis, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Subitement, il a envie d'aller où? Il veut venir en Côte d'Ivoire. Et puis, des circonstances, il va rencontrer des amis. Il dit, mais toi, on est en vacances en Côte d'Ivoire? Il dit, ah, je suis occupé, mais je sais pas, mais j'ai bien envie d'aller avec vous. Et quand il arrive là, oh, parmi ses amis là, il y a un maintenant qui l'invite à vase d'honneur. Et ce jour-là, pendant que tu es en train d'adorer, c'est ton voisin. Donc dès qu'il s'assoit, voilà celle. Alléluia. Os de mes os, chair de ma chair. Amen. Alléluia. C'est parce que la gloire n'est pas restaurée dans les foyers, c'est la perte de la gloire qui crée un désordre. Qui crée un désordre. Mais quand la gloire revient, Dieu ramène les choses. Alléluia. Alléluia. Dieu restaure toutes choses. Dieu veut restaurer les familles. Dieu veut restaurer les foyers. Dieu veut restaurer les maisons. Donc, les conflits vont continuer ainsi de suite. L'homme qui va dominer sur la femme, et puis, juste après, conflit au niveau des enfants. À Caïn qui se bat contre Abel. Et quand vous continuez les passages, vous allez voir que la polygamie est venue après. Il y a un monsieur qu'on appelle Lémec. C'était un monsieur dangereux et méchant. La Bible dit que c'est le premier homme qui va devenir polygame. Il y a aussi un grand message dans la vie de cet homme au travers de son nom et puis du nom de ses enfants et de ses femmes. Il s'appelait Lémec. C'est le premier homme qui va devenir polygame. Donc plus l'humanité va avancer, plus la perversion dans le domaine conjugal, le domaine familial, va rentrer. Ce que Dieu n'avait pas amené, les hommes vont plus avoir un désir envers une femme, mais subitement, ils vont sentir dans leur cœur, des désirs envers plusieurs femmes. C'est à partir de les mecs que donc ces désirs vont naître, on va commencer à connaître tout ce qui est adultère. Parce que simplement, le monsieur qui aime sa femme, il n'est pas satisfait, il faut qu'il parte chercher ailleurs. Mais ces choses-là n'étaient pas dans la vie de Adam. Au fur et à mesure, le mal va commencer à entrer. Parce que la cellule familiale a été souillée. Alléluia.
Alléluia.
Éphésiens chapitre 5, verset 22. Je l'ai dit tout de suite, je l'ai cité tout à l'heure ce passage. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Dans ce passage-là et dans les autres passages qui vont faire référence au foyer, Dieu donne pour la restauration de la gloire dans la famille, Dieu donne une responsabilité importante à l'homme et une responsabilité aussi importante à la femme. En fait, pour que la gloire soit restaurée, ce n'est pas forcément que les deux doivent faire un pas simultanément. Vous savez, l'homme et la femme, lorsqu'ils se séparent, avec tous les problèmes que je viens de citer, les conflits, c'est un peu comme un élastique qu'on est en train de tirer. Il suffit qu'un lâche pour que les choses se remettent en ordre. Donc, soit c'est la femme qui agit, soit c'est l'homme qui agit. Un homme peut travailler la restauration de sa famille, de la gloire de Dieu. Comme la femme peut prendre la décision de restaurer la gloire de Dieu dans sa maison. Tu peux changer les choses. Et c'est ce qu'on avait dit la dernière fois, le bâton de l'autorité, le bâton de la responsabilité. Alléluia, tu peux changer les choses. Tu n'as pas forcément besoin que l'autre soit de ton... qu'il comprenne au départ. Mais il y a une attitude que tu peux manifester pour changer les choses. Alléluia. On va lire rapidement 1 Pierre, chapitre 3. Il dit, « Femme, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, qu'il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre, chaste et respectueuse, chaste et respectueuse. » Et puis verset 3, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. » La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. La Bible dit ceci, c'est que si la femme travaille son être intérieur, regardez ce qu'il dit. Il dit, ayez cette pureté incorruptible. Une pureté qui est incorruptible, c'est-à-dire une pureté qu'on ne peut pas corrompre. Ça veut dire que tu atteins un tel niveau d'attitude intérieure que les circonstances ne changent pas ta moralité, ta mentalité, ta façon d'être. Il dit que lorsque la femme rentre dans ce genre d'attitude-là, ce qu'il appelle chaste, réservée et respectueuse à l'intérieur, elle est capable de changer n'importe quel homme sans parole. Alléluia. C'est ce que j'ai appelé l'atmosphère d'Éden. Dans le livre de Proverbes chapitre 31, Dieu va dire la même chose. Il dit, voici la femme vertueuse. On va pas lire le passage, on va l'écrire. Il dit, voilà la femme vertueuse. Et puis il va donner ses attitudes. Elle fait ceci, elle fait cela dans sa maison, elle entretient sa maison, elle fait ceci. Et puis il dit, à cause de cela, son mari est respecté aux portes. Son mari vient et puis lui dit, bien heureux, ses enfants la saluent. En fait, c'est comme s'il explique que l'attitude simplement de la femme peut ramener, peut donner de la valeur à un homme, peut changer sa vie. Juste son attitude. En fait, quand Dieu a dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, il lui a tout simplement donné la clé. La clé du cœur de l'homme. André, vous ne suivez pas mon affaire. Amen. Les femmes, vous avez une clé. Alléluia. Vous avez une clé. Vos cœurs aspirent plus à la stabilité conjugale, au mariage, à l'éducation des enfants, que naturellement les hommes. Ce qui n'est pas normal pour autant. Amen. Mais c'est de même que le diable est passé par la femme pour faire chuter l'homme, de même Dieu a décidé de passer par la femme pour restaurer la gloire. C'est pourquoi il dit, ces femmes, c'est de ta descendance, c'est-à-dire, c'est ce que tu vas faire. C'est de ta fécondité, c'est le produit de la femme qui va écraser la tête du serpent. Est-ce que vous me comprenez? Parce que quand la Bible parle de fécondité, je vous ai dit que ce n'est pas forcément des enfants physiques. Tout ce que tu entreprends fait partie de tes enfants, fait partie de ta descendance. Vous me suivez, non? Ok, donc quand la Bible dit, ta descendance va écraser la tête du serpent, il est en train de dire, ce que toi tu crées, tes produits, vont détruire le diable. Alléluia. Alléluia. Bon, je lis quand même Proverbe chapitre 31. Je pense que vous ne percutez pas trop bien. Mais c'est compliqué cette histoire-là. Bon, dites-moi si c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Proverbe chapitre 31. On va lire Proverbe chapitre 31. On va. Les hommes, ce n'est pas du tout que vous n'avez rien à faire, hein. J'arrive sur vous. Pas aujourd'hui, mais j'arrive sur les hommes. Quand tu vas comprendre ton travail. Proverbe chapitre 31. On va commencer au verset 10. Il est dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins. Elle a fermé ses bras. En parenthèse, qui a dit qu'une femme ne peut pas travailler? Amen. Elle doit travailler. Si elle travaille. Mais il faut travailler. Il y a une mentalité dans laquelle tu dois travailler. Amen. Il y a une certaine mentalité par rapport à ta maison, par rapport à la restauration de ce qu'on appelle l'Éden. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Et elle livre les ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et que porte ses œuvres la loue. Alléluia. En fait, si vous comprenez, la Bible dit, son mari est considéré aux portes. Parce que l'homme c'est ce qu'il cherche. Travailler, pouvoir, et puis tu as une certaine valeur. Amen. Simplement l'attitude de la femme peut amener un homme à entrer dans cette dimension. Je toucherai les aspects de l'homme très bientôt. Qu'il ait un rôle aussi important, alléluia, à jouer dans la restauration, parce que lui aussi, il a sa part de responsabilité. Amen. Maintenant, revenons à notre histoire de la chute. Je vais juste introduire ce que je vais dire. Maintenant, revenons à notre histoire du bâton, d'autorité. Vous allez voir comment Dieu restaure la gloire. Comment Dieu va restaurer la gloire dans les couples, dans les familles, tout ça. Dimanche dernier, j'ai dit que quand Dieu a voulu donner le bâton d'autorité, il y a un bâton de commandement, un bâton que Dieu donne, qui change l'eau amère en eau douce. C'est-à-dire toute situation amère, ce qu'on appelle les eaux de Mara, en eau douce. C'est le bâton qui change toute situation compliquée en situation intéressante. La Bible déclare que, et je dis que le bâton que Dieu a donné à Moïse, un bâton est le symbole du commandement. Il y a un frère qui est venu me voir qui m'a dit, ah, parce que ce que tu dis c'est vraiment vrai parce que c'est un symbole qu'on garde aujourd'hui, même dans l'armée, quand quelqu'un est chef d'état-major, Une des choses qu'on lui remet, c'est un bâton de commandement. Donc, le bâton, c'est le symbole du commandement. Donc, Moïse se retrouve devant de l'eau amère. Le peuple boit de l'eau amère. Ils sont déçus. Ils avaient de l'espoir. Ils ont espéré qu'en marchant avec Dieu, ils allaient avoir de l'eau douce. Mais ce qu'ils rencontrent, c'est de l'eau amère. La solution au problème, eux, ils ont murmuré. Or, la solution, c'était de chercher Dieu pour que Dieu leur donne un bâton, qu'on appelle le bâton de commandement. Et ce bâton-là, donc, est jeté dans l'eau. Et le bâton transforme l'eau amère en eau douce. Et c'est après ça qu'ils vont connaître le Jéhovah Rapha, celui qui restaure. Donc je vous ai dit que Dieu va te restaurer dans ton autorité, dans ta responsabilité. Et cette autorité-là, la première chose pour la faire, c'est que cette autorité, pardon, a été perdue dans le jardin d'Éden. L'homme a donné son bâton d'autorité au diable lorsqu'il a fui sa responsabilité. Lorsqu'il a mangé le fruit interdit, le premier sentiment qu'il a eu, ce fut la peur. C'est à cause de la honte et de la peur que Adam n'a pas assumé ses responsabilités. Il a mis ça sur Ève. S'il avait peur de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Adam a mis l'affaire sur Ève parce que lui, il a eu peur de la réaction de Dieu. Il voulait qu'on accuse Ève, pour qu'on dise Ève, et qu'on crie sur Ève seulement. Vous comprenez, non? Quand un enfant a des problèmes, qu'il a fait quelque chose à sa petite soeur ou bien son frère, il dit c'est lui. On dit toi, il essaie de se justifier. Et c'est une attitude qu'on garde naturellement chez les hommes. On essaie de prendre les autres, d'aggraver la responsabilité des autres pour nous dédouaner. Donc Adam agit pareil. Il perd donc son bâton de commandement qui va chez la femme. La femme n'assume pas aussi, elle donne le bâton au sang. On dit, femme, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, c'est le diable, c'est le serpent. Donc c'est un peu comme si le serpent a pris un peu le commandement. Et depuis ce temps-là, le diable a commencé à dominer. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse chapitre 9, verset 1, tout à l'heure j'ai dit que Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer, non? En Genèse 1, 27. Mais Genèse chapitre 9, verset 1, à cause de la dégringolade de l'humanité, voilà la parole que Dieu dit. Dieu dit à l'humanité, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et il ne dit pas dominer. En Genèse 9, 1, il ne dit plus dominer. Parce que l'homme avait perdu le pouvoir de dominer. Jésus-Christ est venu pour tout restaurer. Alléluia. Donc, restaurer la domination de l'homme, c'est restaurer le foyer. Sans restauration du couple, il ne peut pas avoir de domination. Parce que c'est la première des choses que Dieu a donné pour qu'il y ait domination. Or, l'humanité a perdu lorsque l'homme a eu d'abord peur. Vous me suivez? Et Satan continue à régner sur les foyers, empêcher la gloire de Dieu de venir parce qu'il sème dans votre cœur la peur. Si vous voulez voir Dieu restaurer votre foyer, il faut triompher de la peur sur toutes ses formes. Tout ce que tu crains, tout ce dont tu as peur, est une porte pour l'ennemi. Alléluia. Tant que tu as peur de mourir vieille, sans être marié, tu seras bloqué par rapport à ton mariage. Tu ne peux pas rentrer dans la gloire du mariage. Même si Dieu te fait grâce par pitié, pour te donner un mariage, il est très fort probable que ton foyer ne soit pas glorieux. Parce que une des choses qui t'amène à évoluer, c'est la crainte. Tu ne peux pas voir la gloire. Ah, le point que je voulais toujours dire, j'allais parler un peu du divorce. Beaucoup de gens ne peuvent pas voir la gloire dans leur foyer. Pourquoi? Parce que ils ont peur. Bon, comment dirais-je? Dieu veut restaurer leur couple. C'est vraiment le mot juste pour ne pas que les gens croient que je dis qu'il faut divorcer. En fait, il y a des gens, il y a des foyers aujourd'hui qui subsistent, pas par amour l'un pour l'autre, mais à cause de la peur et de la honte de ce que diront les hommes. Vous suivez, non? Bon, si on prie pour que Dieu restaure ton couple, ça ne peut pas marcher. Tu peux avoir une paix pendant un moment, mais tu ne peux pas voir la gloire. Ton eau amère ne peut pas devenir douce. Ton foyer là. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle tu demeures dans ce couple, ce n'est plus par amour pour ton conjoint. C'est par peur de ce que les gens vont dire de toi. Donc, la crainte t'amène à prier pour dire, pasteur, prions pour que Dieu sauve mon foyer. Mais ce qui est dans ton cœur qui t'amène à prier, ce n'est pas l'amour de ton mari. C'est la honte et la peur du divorce. Ça ne peut pas faire entrer la gloire. Il faut plus que... Alléluia. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, ma soeur, tu pleures dans ton couple. Et n'eût été les Écritures qui disent que l'homme ne se sépare pas de sa femme, la femme ne va pas se séparer. N'eût été la Bible. Il y a longtemps, peut-être que tu serais parti. Est-ce qu'il y a des gens qui, honnêtement, seraient... Bon, non, ne lève pas les mains. Pardon. Et si le mari voit ça, il dit, hein? Mais je sais parce que je parle avec les gens et j'ai beaucoup cherché la face de Dieu pour comprendre pourquoi. Le Seigneur me dit ceci. Il dit, mon fils, il faut que tu fasses comprendre aux gens que on ne fait pas la volonté de Dieu par peur. Tout ce qui est basé sur la peur est manipulé par le diable. Quand l'homme a mangé le fruit interdit, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a perdu la gloire? Il ne s'est pas repenti. Il a eu peur. La recherche du couple, ça veut dire que tu es pressé de te marier parce que tu as peur d'être trop vieille, de ne plus avoir d'enfant, n'est pas le mobile pour lequel Dieu doit t'exaucer. Parce que si l'Éternel t'exauce dans un tel cas, ton couple ne sera pas glorieux. Amen. La base de la famille, c'est l'amour. n'est pas la peur. Tu vas rester avec ton mari parce que tu l'aimes. Marie va rester avec sa femme parce qu'il l'aime. Pas parce qu'ils ont peur de ce que les parents du village vont dire. Et de ce que les amis penseront. Si tu as peur de quelqu'un, tu as peur de vieillir. Alléluia. Affronte ta peur. Affronte ta peur. La dernière fois, il y a une personne qui est venue me voir et dit, ah, mais vraiment, ça ne va plus. Si c'est comme ça, là, il faut que je me... Je lui ai dit, Dieu ne t'interdit pas, tu peux divorcer. Oui, attends. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas... Je t'interdis rien. Je lui ai dit, comment? Je lui ai dit, non. Si il y a... On va lire la Bible. C'est vrai que ce sont des passages qui prêtent à polémique. La Bible dit, Matthieu chapitre 19, à partir du verset 7. Et puis dans 1 Corinthiens chapitre 7, lisez attentivement le passage. Et on ne doit pas divorcer, c'est ce que le Seigneur dit. Sauf pour cause d'infidélité. Littéralement, c'est ce que ça signifie. C'est-à-dire, si tu divorces en dehors d'un cas d'infidélité, Dieu dit que tu commets l'adultère. Mais quand il y a infidélité, c'est un peu comme si l'alliance est brisée. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut divorcer. Ça veut dire que tu peux. Tu peux, ça veut dire que tu es libre. Si tu veux rester, tu restes. Si tu veux partir, tu t'en vas. Maintenant, nous, en fait, parce que ce qui doit te faire rester, ce n'est pas la peur du châtiment. C'est l'amour pour ton mari. Si c'est parce que tu as peur, autant partir. Parce que ton état même moral ne va plus permettre à Dieu de se manifester. Dieu ne maintient pas les gens à cause d'une règle. C'est-à-dire, tu es là, tu partes. On dit non, frère, vous soyez ensemble, la loi a dit. Donc tu es là, tu ne supportes plus la maison, ton mari t'est parti, la vie est compliquée. Donc tu restes juste pour plaire au pasteur. Tu es en train de mourir. Je ne sais pas, depuis l'instant où les gens disent, mais les gens ne sont pas épanouis, ça ne marche pas. Quand on fait la volonté de Dieu, il y a un fruit. Quand on fait la volonté de Dieu, je ne comprenais pas pourquoi. Mais les gens, ils veulent établir les mariages selon les règles, selon la loi. Le mariage que Dieu a établi avec Adam, c'est une affaire d'amour. C'est une affaire d'amour. Alors, ce qu'il faut chercher à restaurer, c'est d'abord la base. Je n'ai pas dit de partir, mais je dis, si c'est parce que tu as peur, dès qu'il y a eu infidélité reconnue et avérée, ça veut dire adultère, la loi divine ne te tient plus responsable. Donc, maintenant, c'est ta volonté. Moi, maintenant, si tu me demandes un conseil, je dis, aime ton mari, prie pour lui. Parce que Dieu aussi nous fait grâce. Mais si tu veux partir, tu es libre. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 7. On a fini. Alléluia. Amen. Si quelqu'un est marié avec, je résume, on va lire ça la prochaine fois. Si quelqu'un est marié avec un païen, parce que je suis venu pour libérer un peu les gens dans leur tête. Si quelqu'un est marié avec un païen, un non-croyant, Dieu dit, il ne faut pas te séparer de lui. Mais s'il veut partir, il dit, laisse-le partir. Il dit, dans ce cas-là, tu n'es pas lié. C'est clair. Si tu es marié à quelqu'un, il veut te fatiguer. Il y a des maris qui sont là, il y a des femmes. Un païen, il te fatigue. Parce qu'il y a plus de manières de partir de la maison. Il te chasse, il s'en va, il t'abandonne, il ne va plus prendre une femme, tu es libéré. Tu n'es pas tenu de rester. Maintenant, si toi, tu as envie de rester pour prier, tu prends ce qui va revenir, gloire à Dieu. Mais sinon, non, il n'y a pas un commandement qui est sur ta tête et puis qui t'oblige, pendant que toi-même, les sentiments sont partis, et on va te maintenir dans un jour que Dieu ne t'a pas donné. En fait. Alléluia. Bon, on va s'arrêter ici, le film. Moi, je ne suis pas en train d'autoriser... En fait, je veux simplement vous dire que on va terminer, on va continuer mardi prochain. On va continuer mardi prochain. La base de l'action de Dieu, c'est l'amour. Tu dois pouvoir regarder, si tu veux rentrer dans ce foyer, tu dois pouvoir regarder ton homme, regarder ta femme, et retrouver ce que Dieu avait mis initialement qui t'avait entraîné vers la personne, c'est-à-dire l'amour. Tant que tu vas vouloir rester dans ce foyer-là, à cause de la honte des hommes, à cause, je ne sais pas, de quel autre intérêt qui t'effraie et qui te fait peur, c'est-à-dire, c'est la crainte, je ne sais pas, d'une chose ou autre, qui te maintient dans cette situation, Dieu ne peut pas restaurer dans la gloire votre couple. On va essayer de faire du raccommodage. Voilà, on va venir s'asseoir, forcer, et vous allez rester comme ça 3-4 mois. 4 mois plus tard, j'ai dit, c'est bon, on dit, mais mauvais. Et ça ne finit jamais. Parce que les gens n'ont pas le courage de s'arrêter pour dire aux gens ce que la Bible a dit clairement. Amen. Il faut s'arrêter un moment et puis voir sur quoi est-ce qu'on est en train de bâtir. C'est pourquoi le Seigneur dit, dans quel cas il dit, si la femme se sépare, qu'elle reste ainsi, qu'elle attend sans se marier, n'est-ce pas? Qu'elle attend. On va lui en prendre un prêtre, ça veut dire. C'est-à-dire, Dieu ne vient pas à ce moment à maintenir les gens sous un joug absolu, tu es déçu, et puis. Bon, ok, on va s'arrêter là. Maintenant, si tu n'as pas bien compris, attends mardi prochain. Vous pouvez aller dire aujourd'hui, là, on dit à nous aller pour les divorces. Allez, parce que je dis que je ne dis pas, aujourd'hui, même dans l'église, sur près de 10 couples, on a beaucoup de divorces. Donc, les divorces sont là. Ce n'est pas peut-être frappant devant les hommes pour plaire aux théologiens, mais de manière pratique, dans la vie de tous les jours, les gens sont en train de se séparer constamment. Il est temps que Dieu restaure sa gloire, il est temps que Dieu renouvelle l'église. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu des cieux, Dieu vivant, je veux remettre tes serviteurs en tes mains. Père éternel, comme je l'ai dit aujourd'hui, nous avons vraiment introduit la restauration de la gloire dans la famille. Ce que Seigneur Dieu a voulu que nous retrouvions, c'est totalement Seigneur Dieu, nous avons planté le décor, expliqué le contexte Seigneur. Et tu veux que nous comprenions Seigneur Dieu, le bâton d'autorité que tu vas nous donner en faisant fuir la peur. La peur des quand dira-t-on. La peur Seigneur Dieu des bruits de l'extérieur. En faisant disparaître cela, ma prière est que Seigneur Dieu, tu ôtes aujourd'hui dans le cœur de tes enfants la peur de ne pas se voir marier, la peur du célibat, la peur de ne pas avoir des enfants. Tu nous dis que lorsque cette peur-là disparaît, Seigneur Dieu, toi tu nous restaures, tu nous donnes les enfants, tu nous donnes le mariage, tu restaures nos couples. Mais tant que nous allons laisser conduire, Seigneur Dieu, par la peur, qui est une âme du diable, nous ne pourrons pas voir ta gloire. Nous ne pourrons pas voir ta gloire. Oh Dieu, quand tu as voulu utiliser Moïse pour restaurer le peuple, sur la montagne, tu as d'abord ôté de son cœur la peur. Tu as d'abord ôté de son cœur la peur. Tu lui as montré ce qui effrayait le serpent et tu lui as dit de l'attraper. Et aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu veux ôter de nos cœurs la peur pour restaurer nos maisons, pour restaurer nos couples dans la gloire. Éternel, parce que nous nous mettons dans des jours que tu ne nous as pas donnés, dans des pensées que tu ne nous as pas données, Seigneur Dieu, agissant par la peur des hommes, par la honte des hommes, et nous mettons sur les fardeaux que tu ne nous as pas donnés, Seigneur Dieu des cieux. Éternel, j'ai parlé ainsi parce que ce que tu m'as dit, c'est que tu veux glorifier ton nom dans les foyers. Non, ta volonté n'est pas que les gens divorcent. Ta volonté n'est pas que les couples se séparent. Mais ta volonté est qu'ils puissent voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur Dieu. Mais tu leur dis aujourd'hui, pour voir ta gloire, que la peur disparaisse. Que la crainte du lendemain s'éloigne. Tu n'en sois ainsi dans les vies, dans les cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Alléluia.
Merci d'avoir suivi ce message et n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez reçus du Seigneur.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.